Vous le connaissez et je suis certain que vous l'aimez autant que nous ici à Rage Against le matin. Il vulgarise tellement bien l'actualité et ce, dans tellement de sujets différents. Je le dis toujours, mais c'est parce que je trouve que c'est important pour vos connaissances générales. Si vous ne suivez pas Farnell Morissette sur les réseaux sociaux, allez le faire immédiatement. Vous ne serez pas déçus. OK? C'est une garantie que je fais comme ça. Hey, Farnell, comment ça va, mon chum?
Ça va très bien. Vous, comment ça va?
Ça va bien. On dirait maintenant... En tout cas, c'est le cas les dernières fois depuis le début de la saison qu'on s'est jasé. Lorsqu'on se parle, ça donne qu'on a une météo plus londonienne sur Québec. C'est un peu le cas.
J'en assume ma pleine responsabilité.
Ah, tu sais que j'aime te taquiner sur cette météo que tu as là-bas. Et habituellement, toi, ce que tu me dis, c'est pendant que nous, on a la météo de l'Angleterre, ben toi, ça donne que tu as le rare soleil, tu sais.
Ah, pas aujourd'hui, malheureusement, non. On a une météo typique de notre environnement ici.
OK, OK. Bon, Farnell, allons-y avec le sujet de cette semaine. On va parler de cette décision au cours des derniers jours du Canada d'imposer une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. Question de peut-être imiter ce qui se passe aux États-Unis. Là, peut-être je viens de répondre à ma toute première question parce que j'allais te demander pourquoi le Canada prend cette décision-là.
Je pense que oui, imiter les États-Unis, c'est exactement ça. Même, je dirais, le gouvernement Biden avait fait une annonce identique en mai passé. Je pense que l'administration des États-Unis a été un peu gentille envers le Canada, a laissé le Canada faire semblant qu'il faisait sa propre analyse pour décider par lui-même. Mais vu les traités de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, si le Canada emboîte pas exactement le pas des États-Unis, ça met en péril un peu le concept même du libre-échange dans une espèce d'attitude de protectionnisme en gang, si on veut. Généralement, quand on parle de protectionnisme, on s'imagine que c'est le pays qui ferme ses frontières aux exportations étrangères. Mais ce qu'on est en train de voir présentement, c'est comme s'il y avait des gangs qui se créaient, qui se disaient « entre nous, on va avoir le libre-échange », mais tout le monde qui est à l'extérieur de nous, eux, non, on se fait du protectionnisme. C'est un genre de... c'est pas une nationalisation, c'est un genre de déglobalisation, puis c'est ça. Le Canada n'avait pas le choix d'emboîter le pas des États-Unis.
OK, bien, OK. Puis juste pour que ce soit clair, puis je veux ton avis là-dessus, est-ce qu'on avait réellement pas le choix ou, à la base, on voulait imposer cette surtaxe-là?
Ben, probablement qu'on voulait le faire, mais est-ce que ça aurait été 100%? Est-ce que ça aurait été 80%? Est-ce que ça aurait été du 9 à 36% comme on voit en Europe? Je sais pas. Le fait que c'est exactement les mêmes taux, la même surtaxe que ce qui avait été annoncé par les États-Unis, ça c'est clair que c'est parce qu'il faut s'aligner aux États-Unis pour pas que le Canada devienne une sorte de porte d'entrée secondaire au marché américain qui forcerait les États-Unis à couper les ponts en libre-échange sur certains produits avec le Canada.
Farnell, c'est quelles compagnies qui vont être affectées le plus par cette surtaxe-là? J'ai beaucoup entendu parler de Tesla, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y a quelques autres producteurs chinois. Il y a la compagnie BYD, BYD, qui commence à faire des exportations de véhicules électriques au Canada. Mais oui, essentiellement, cette mesure-là vise largement la compagnie Tesla, qui est quand même drôle parce que c'est une compagnie qui est basée aux États-Unis. Alors, imposer des tarifs d'importation, une surtaxe sur des exportations qui viennent de la Chine pour viser une compagnie qui est basée aux États-Unis pour protéger le marché des États-Unis et du Canada de la protection automobile, c'est le genre de choses qui montrent à quel point les interactions économiques mondiales actuellement sont rendues complexes, ce qui est peut-être d'ailleurs une des choses qui mène à cette espèce de tentative de se recentrer sur ces industries locales comme on voit à travers l'Amérique du Nord présentement. Oui, c'est largement Tesla qui, depuis, je pense, l'année passée, avait commencé à faire la construction, l'assemblage des Tesla en Chine et les importait de la Chine vers le Canada. Le Canada, c'est quand même à peu près 6 % du marché des Tesla au monde, ce qui est gros par rapport à la population canadienne. Et je pense que c'est assez clair que c'est Tesla surtout qui est visé par cette mesure-là. C'est peut-être aussi un signal envoyé aux autres grands producteurs nord-américains pour leur dire « si vous envoyez vos industries en Chine, on va vous attaquer vous autres aussi ».
concrètement, puis après ça, bien, on pourra poursuivre dans le, tout ce qui est politique, puis à travers le monde, dans tout ça, mais pour le consommateur au Canada qui veut se procurer une voiture électrique, qu'est-ce que ça va changer? L'impact sur le portefeuille va-tu être énorme? Tu sais, j'ai comme l'impression que oui, là, quand on impose une taxe importante comme ça, ben souvent, ça va revenir quand même à la tête du consommateur.
Oui, on s'en sort pas. Pour l'instant, l'impact va surtout être plutôt théorique parce que les autos électriques bon marché, disons celles qui sont pas chères, qui sont pas des modèles de luxe comme les Tesla, ont seulement juste commencé à venir de la Chine. Alors, pour la plupart des gens, ces autos-là qui se vendent dans le coin du, j'ai vu, du 25 000 $ pour un auto électrique, ce marché-là n'existe pas encore vraiment au Canada. Mais ce que ça fait, c'est que cette surtaxe-là va rendre ces autos-là à toute fin pratique inaccessibles. Alors, le consommateur qui se cherche un auto électrique bon marché va devoir attendre à ce que les GM, les Ford, les autres compagnies en Amérique du Nord commencent à produire des modèles bon marché. Ça commence, mais on est certainement assez loin derrière les Chinois là-dessus. Alors oui, les consommateurs qui veulent participer à l'électrification des transports à leur échelle, puis qui n'ont pas les moyens de s'acheter une Tesla, malheureusement, ils vont être obligés d'attendre encore quelques années au moins.
Farnell, corrige-moi si je me trompe, mais je regarde cette décision-là et je me dis que ça vient nuire à l'objectif d'avoir quoi, en 2035, uniquement des véhicules électriques en vente et sur nos routes. Comme, ça vient pas nuire un peu au but là, d'avoir les véhicules électriques en vente pour 2035?
À court terme, oui, je pense que ça vient nuire les ventes. Ça vient nuire les ventes électriques, les ventes d'auto-électriques dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais ça va probablement avoir l'effet, ça envoie un signal très clair aux producteurs nord-américains. Ce que ça leur dit, c'est on va protéger votre marché à vous. Si vous êtes un GM, un Ford, un Chevrolet qui veulent produire des auto-électriques, vous n'allez pas avoir de la concurrence contre le marché chinois qui a à peu près 5 à 10 ans d'avance sur vous. Okay. Alors, à long terme, sur les 10 prochaines années, ça pourrait avoir un effet plutôt de stimuler la production de véhicules électriques en Amérique du Nord. Ça reste théorique, mais je pense que c'est ça le pari que sont en train de faire les gouvernements, tant canadiens que celui des États-Unis, à dire « oui, on va, à court terme, faire en sorte qu'on va avoir un petit ralentissement, mais ça va garantir à l'industrie un marché protégé qui va, on l'espère, leur donner tout le galon qu'ils ont besoin pour produire leur propre véhicule électrique d'ici les 10 prochaines années.
Donc, on vise une plus grosse production en Amérique du Nord pour justement répondre à l'objectif 2035. Par contre, j'accroche sur le fait que tu dis que la Chine est rendue 5 ou 10 ans en avant de nous. Est-ce qu'on va se retrouver avec des véhicules électriques de second ordre en Amérique du Nord comparativement au reste de la planète?
Ben, merci. Ouais, c'est ce que je veux dire par « en avant », je veux dire dans le sens de leur industrialisation. Leur technologie n'est pas meilleure. Essentiellement, la technologie est moins avancée que celle de Tesla, par exemple. Mais ce qu'ils ont en Chine, c'est qu'ils ont déjà des usines qui sont capables de produire 1 million de véhicules électriques par année. On est loin d'avoir ça, puis ça va prendre longtemps avant qu'on ait cette capacité-là en Amérique du Nord. Alors, quand je dis qu'on a 5 à 10 ans de retard, c'est pas dans la qualité des véhicules électriques, c'est vraiment dans notre capacité d'en produire et dans toute la chaîne d'approvisionnement qui mène au véhicule final.
OK, Farnell, c'est quoi la réaction de la Chine? On ne doit pas être content là, en Chine de cette décision-là.
Ils sont en effet pas contents. On les comprend. Je veux dire, pour eux, c'est un gros marché qui vient de se fermer à eux. C'est pas nouveau qu'il y ait, disons, des chicanes économiques entre l'Amérique du Nord et la Chine, entre le Canada et la Chine. On remarque aussi, en même temps qu'il y a eu l'annonce sur la surtaxe sur les véhicules électriques, il y a eu une espèce de pré-annonce qu'il y aurait d'autres surtaxes qui viendraient sur l'acier, sur l'aluminium, sur les panneaux solaires, sur des composantes électroniques. Tout ça, ça rentre dans la même politique de protectionnisme, disons, régional qui vient largement de l'administration des États-Unis. Et oui, la Chine n'est pas contente. Et typiquement, ce que la Chine a fait dans le passé en réponse à ça, ça a été de frapper certains secteurs de l'économie canadienne, particulièrement le monde agricole. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de planificateurs financiers, même beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de se dire « Ouais, si on produit du canola, si on produit du porc, du bœuf, du soya, le genre de choses qui se fait largement exporter vers l'Asie, donc beaucoup vers la Chine, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « ça risque d'être tough à l'automne, au printemps, s'il n'y a pas une entente ou si le gouvernement ne vient pas en aide.
Donc, est-ce que le gouvernement a en quelque sorte sacrifié les agriculteurs en se disant « L'important, c'est d'y aller avec notre politique protectionniste de notre économie, puis on veut vraiment développer le marché électrique. » On l'a vu notamment au Québec avec les investissements dans Nordvolt. Est-ce que c'est un peu le coup de dé qu'on joue du côté du gouvernement canadien et du gouvernement américain?
Le gouvernement canadien, on l'espère, voit venir les coups, les représailles chinoises. Quand l'annonce a été faite, le gouvernement, je pense à Mme Freeland, qui disait qu'il s'attendait, qu'il y avait des plans en place en fonction de ça allait être quoi la réponse de la Chine. Peut-être qu'ils ont déjà quelque chose préparé, on ne le sait pas encore. Mais oui, essentiellement, cette décision-là va faire en sorte que les exportateurs agricoles qui misent beaucoup sur le marché asiatique sont un peu échangés, sont sacrifiés au nom de la production industrielle de véhicules électriques qui se fait largement en Ontario, un peu au Québec, en partenariat avec les États-Unis.
Hey, Farnell, c'est une décision qui est prise avec la situation politique américaine qu'on connaît en ce moment. Ça peut-tu changer avec les prochaines élections? Dans le fond, ma question, tu sais, c'est-tu en ligne avec une possibilité que Trump soit au pouvoir ou non? T'sais, est-ce que ça pourrait changer ce genre de décision-là?
C'est sûr que l'administration qui va être élue, que ce soit l'administration Trump ou l'administration Harris, va avoir son mot à dire, potentiellement changer comment ça va être fait, cette politique-là. Mais là-dessus, c'est un point où probablement que tant les républicains que les démocrates seraient fondamentalement d'accord. L'administration Trump passée était beaucoup plus protectionniste que l'administration Biden l'est actuellement. Alors, s'il y a une élection Trump n'a pas promis d'être plus ouvert sur la Chine. Il est généralement beaucoup plus protectionniste. Mm-hmm. La question serait plutôt, s'il y a une administration Trump, est-ce que l'intégration des marchés entre le Canada et les États-Unis va continuer comme c'est là? Est-ce qu'on va continuer à avoir une espèce de protectionnisme régional nord-américain? Ou est-ce qu'une hypothétique administration Trump reviendrait à sa position de la première administration Trump, qui était le protectionnisme au niveau des États-Unis seulement, qui n'inclut pas le reste de l'Amérique du Nord? Ça reste à voir. La situation économique a changé, la situation géopolitique mondiale a changé, mais les signaux qu'on avait dans le passé, c'est que là-dessus, Trump est beaucoup plus protectionniste au niveau national, tandis que Biden, et on peut présumer Harris, sont beaucoup plus protectionnistes au niveau nord-américain.
Okay.
Alors, il y a une intégration du côté Harris qui a probablement moins de chances de continuer du côté de Trump.
Et Farnell, en terminant, je te pose la même question pour ici au Canada. Décision prise par Justin Trudeau, les libéraux, mais les conservateurs sont largement en avance dans les sondages. Est-ce que c'est une politique qui peut être appelée à changer sous un régime Poilievre?
Là-dessus, c'est moins clair. Poilievre est moins fringant sur le développement électrique, mais pas nécessairement parce qu'il veut protéger les échanges avec la Chine, plus parce qu'on a des fois l'impression qu'il est un peu plus axé sur les industries de l'énergie, du pétrole, de l'Ouest canadien. Mm-hmm. Ça reste à voir. Et c'est pas, à ma connaissance, il a pas donné de réponse encore. Peut-être qu'il y a temps de voir comment ça va jouer dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais une chose est certaine, peu importe qui est le premier ministre du Canada, le Canada va toujours devoir s'aligner sur les politiques économiques des États-Unis. Alors, même si Poilievre voudrait peut-être idéologiquement faire quelque chose de différent, il y aurait les mains liées de la même façon que Trudeau les avait.
Farnell Morissette, tu le sais, c'est toujours un immense plaisir de jaser avec toi à Reg Against le matin. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Ça vaut absolument la peine. Farnell, pas le choix de te demander aussi, je le fais tout le temps, as-tu plus une idée de date précise pour ton retour à Québec? Ou
Ça va être fin septembre, probablement dans le coin du 2021, dans ce coin-là. Mon vol n'est pas encore réservé, là, mais ça s'en vient, j'ai hâte, je compte les dodos.
Tu sais que je pose juste la question parce que j'ai hâte de te voir en personne.
Ah, moi aussi, j'ai hâte d'être en studio.
Est-ce que tu as senti la folie Oasis hier du côté de Londres?
Ah, j'ai pas eu la chance de sortir encore depuis que la nouvelle est sortie, mais en tout cas, moi, je la sens, la folie Oasis. Alors, je suis sûr que je suis pas le seul.
Hey, Farnell, merci pour ça, puis on se reparle bientôt.
Merci, salut.
Salut.
Farnell Morissette qui vulgarise tellement bien l'actualité. C'est un immense plaisir de l'avoir dans l'équipe de Rage Against le matin.
Vraiment, j'avais pas pensé à ça, moi, que ça va permettre justement aux GM de ce monde, aux Ford, aux Chevrolet, de développer leur filière électrique sans vivre toujours cette pression-là d'une concurrence, là, et là, je le mets en guillemets, déloyale, justement, en raison du bas prix là, de confection là, dans les usines en Chine.
Après la pause, on va jaser avec le chef de l'opposition de la Ville de Québec, M. Claude Villeneuve. Le maire Marchand, t'es pas là pour le premier conseil municipal, hein?
Pas là. Il était malade ou avait peur des questions de Jean-François Fortin. Je vous laisse faire votre théorie.
7h38, vous êtes à Rage Against le matin. Tu connais ma réponse.
Jusqu'à 10h.